France Culture. Marion Muller-Collard, bonjour.
Bonjour.
Troisième temps de Nos Avoies Nues, qui compte 5 épisodes, je le rappelle. On est toujours du pays de son enfance. Je crois que c'est une phrase que vous avez prononcée.
Non, c'est René Char.
Mais c'est une phrase que vous reprenez à votre compte, de René Char.
Oui.
Et pourquoi cette phrase? Ça compte très très bien que ce soit René Char. Parce que je voulais qu'on parle de littérature et d'enfance dans cet épisode. Déjà que vous nous disiez comment vous êtes entrée, alors peut-être pas en littérature, parce que la Bible a été très importante pour vous toute petite, mais il y a un deuxième livre qui a été très important, que vous citez beaucoup, c'est Le vieil homme et la mère.
Oui.
Est-ce que vous vous souvenez, ou peut-être encore le lisez-vous aujourd'hui, pourquoi ce livre a été important pour vous? Qu'est-ce que vous y avez trouvé dans ce livre?
Parce que il arrive dans ma vie à ce moment charnière de la sixième, où j'ai été jusqu'alors une lectrice justement d'histoire, de contes, des Malheurs de Sophie, Tom Sawyer, ces histoires un peu truculentes qu'on aime entendre ou lire quand on est enfant. Et avec Le vieil homme et la mère, j'entre dans une dimension de pure littérature où certes il y a un narratif, mais du point de vue de l'action, tout bêtement, il se passe pas quelque chose d'extraordinaire. La narration est dépouillée de l'action pour venir créer de l'image, en fait. Créer de l'image, de l'attachement, un portrait d'homme magnifique. Il se passe rien et c'est toute la vie en même temps. Et donc, je vois que le pouvoir des mots n'est pas seulement narratif, en fait. Il est... Il embarque, il nous donne la possibilité de vivre, pour plagier Emmanuel Carrère, d'autres vies que la sienne. Et oui, j'ai ce souvenir de lire ce livre comme on contemple un tableau. Il y avait tout à coup une dimension esthétique qui entrait, en fait, qui venait par-dessus le narratif. Et voilà, et j'ai relu ce livre quand j'attendais mon premier enfant. Et le pouvoir de la littérature a fait que cet enfant s'appelle Manolin, qui est le nom du petit garçon à qui le vieil homme refuse cette sortie en mer ce jour-là, et qui attend le retour du vieil homme sur la plage. Manoline, un petit diminutif en espagnol dont on a fait un prénom vraiment qu'il porte très bien.
À peu près au même âge, Marion Muller-Collard, donc une dizaine d'années, vous écriviez de votre côté déjà,
ouais.
Parce que l'écriture, peut-être les livres ont été moins centraux, dites-vous, dans votre vie par la suite, mais en revanche, l'écriture l'a toujours été,
ouais.
Et vous écriviez déjà, vous aviez même été gagnante d'un concours de poésie.
Oui, c'est vrai.
Donc vous écriviez d'abord de la poésie.
Oui. J'écris de la poésie parce que j'ai une grande tante, la sœur de ma grand-mère, qui est poète suisse, qui vit à Lausanne, et dont je suis très fière et dont je me sens très proche, et qui écrit de la poésie, et donc j'essaye de l'imiter. Et finalement, on a gagné ce concours ensemble, c'était très joli, elle en catégorie senior et moi en catégorie junior. Et en tout cas, c'était pour moi, c'était fou en fait, parce que... Je crois que ça a été ça, avec la première réponse positive de Gallimard, mes plus grandes émotions d'écrivaine. L'écriture chez moi, elle est d'abord buccale. Avant de maîtriser la graphie, ce que j'ai eu de la peine à faire parce que je suis gauchère, je cherchais les mots, en fait. J'aime bien chercher les mots. Et j'aimais ça depuis toute petite. Et donc, je passais de longs temps solitaire, en lisière de forêt, à me raconter des histoires et chercher des mots et des alternatives et peut-être un mot plus précis. Et puis, des fois, le mot est moins précis, mais ça fait une allitération qui me plaît. Enfin, ça, j'ai joué vraiment toute petite. Et cette grande histoire de vivre, elle n'a de sens que si à un moment donné, on peut s'effleurer un minimum les uns les autres. Il y a ce besoin fou de reconnaissance, pas en termes narcissiques, en termes narcissiques aussi, mais en termes de... que l'autre puisse dire « tu ne m'es pas étranger », en fait. De se reconnaître, de se rencontrer, de se reconnaître. Et l'écriture, elle permet d'aller à un endroit où cette reconnaissance peut se faire sans qu'on se rencontre formellement dans la vie. Et je trouve ça fou et très, très fort. Et je pense que ce premier concours que je gagne, entre guillemets, à 8 ou 10 ans, je me souviens plus très bien, c'est une façon de dire que ce que je peux dire est, ne m'appartient pas qu'à moi, en fait. Qu'il y a quelque chose du commun de l'existence humaine, en fait. Que cette solitude inaliénable d'être soi et de ne pas être quelqu'un d'autre, en fait, elle est compensée par la capacité du langage à venir se toucher. J'ai toujours l'impression, quand j'écris, et je l'avais déjà toute petite, je crois, sans être du tout dans une perspective de publication, de diffusion, j'étais toute seule sur mon petit mur, mais c'est toujours cette impression de jouer un peu à Colin Maillard. Il y a quelque chose, on a les yeux bandés et il faut se toucher quand même, quoi. Et on tâtonne, en fait, on tâtonne tous les uns vers les autres. Et l'écriture, pour moi, la plus belle façon de tâtonner vers la rencontre qui m'ait été donnée, qui me soit donnée, en fait. Voilà.
Alors, on parlait hier du livre phare de celui qui vous a vraiment fait connaître, Marion Muller-Collard, qui est L'autre Dieu, paru en 2014. Mais 3 ans plus tôt, vous aviez donc une réponse positive de Gallimard.
Oui, ça c'est fou.
Pour le premier roman que vous avez écrit, Prunelle de mes yeux, paru en 2011 donc, chez Gallimard, et qui est l'histoire d'une adolescente, mais qui est un roman, je dis mais c'est un roman pour la jeunesse. Et après, en 2013 et en 2014, vous avez fait paraître d'autres romans jeunesse, Plume d'ange et Le Tam-Tam magique, puis Deux petits Platons en 2014, Le petit théâtre de Hannah Arendt et Le professeur Freud parle aux poissons, et en 2016, Bouche cousue. C'était des livres pour la jeunesse.
Je suis pas sûre d'avoir été si douée pour ça. En tout cas, ça a été une très bonne école, en fait. Il n'y a rien de plus difficile que d'écrire pour les enfants. Et je pense pas y être arrivé si bien que ça.
À hauteur d'enfant, peut-être, vous voulez dire, non?
À profondeur d'enfant et à exigence d'enfant. Je dirais que les mots comptent encore plus, chaque mot compte encore plus pour les enfants.
Vous êtes passé à l'écriture, alors, dite adulte ou tout public, je sais pas comment on le dit. C'était en 2018 avec Le jour où la Durance.
Ouais.
Qui s'ouvre sur la mort d'un fils lourdement handicapé. Et puis, a suivi La vie funambule, qui est une lettre à la fille d'une amie à vous, là, réelle, qui est décédée d'un cancer 4 semaines après le baptême de cette fillette, Wanted Louise, c'est l'expérience de mère. Alors là, je cite pas tous les livres, hein, bien sûr, mais parce qu'il y en a une vingtaine, hein, mais... Malgré tout, dans les livres que j'ai pu lire et ce que j'ai lu de vous aussi, Marion Muller-Collard, il m'apparaît que 2 choses sont frappantes. La première, c'est que de toute façon, que ce soit de la fiction, des essais pour la jeunesse ou pas, vous écrivez de façon incarnée, c'est-à-dire à partir de vous, à partir de vos enfants, à partir de votre vie. Ça, c'est la première chose qui peut frapper. Et la deuxième, c'est qu'il est quand même... Je ne vais peut-être pas dire toujours, à moins que ce soit le cas. En tous les cas, très, très souvent, question d'enfant, de filiation, de maternité. Ça, c'est les 2 choses qui sont frappantes. Est-ce que vous pouvez en dire quelque chose ou est-ce que c'est quelque chose dont vous n'avez pas conscience, en fait?
Partir de soi, en fait, moi, je suis assez à l'aise avec cette expression d'auto-fiction, c'est-à-dire de faire de soi-même une fiction. Mais il faut faire de soi-même une fiction. Il faut devenir un personnage à égalité avec tous les autres personnages. Et quand je mobilise des personnages qui existent en vrai, comme disent les enfants, pour de vrai, c'est d'ailleurs toujours un sujet de discussion pour moi avec mes proches, je les informe qu'ils vont devenir un personnage, que qu'ils vont se mettre en fait au service justement d'autre chose que de leur personnalité. En fin de compte, ça m'amène beaucoup à réfléchir sur la question de l'intime, évidemment, du personnel. Et je me demande si finalement l'intime, c'est pas ce qu'on a tous en commun. C'est pas l'endroit où on peut se rencontrer sous une autre modalité que la modalité de nos fonctions sociales. Et que l'intime ne nous est pas tellement... c'est différent du privé ou du personnel, en fait. Ce qui m'est totalement personnel et ce qui est totalement privé sont pas des choses que je vais mobiliser dans l'écriture. En revanche, l'intime, oui, parce que d'expérience ou d'instinct, je flaire que c'est à cet endroit-là que, dans mon jeu de Colin Maillard, je vais pouvoir rencontrer quelqu'un, toucher quelqu'un, en fait. Et j'ai fini par me convertir à l'idée que l'intime était finalement l'endroit disponible pour les plus belles rencontres, et en même temps qui requiert énormément de pudeur. Et c'est pour ça que le livre est parfait pour ça, parce qu'il n'impose pas le visage, et vous dites incarnation, oui et non, parce que justement, il n'impose pas ma présence en chair et en os, en fait. Il permet à l'autre de vivre une solitude habitée, où ce qu'il rencontre, c'est lui-même. Parce que sinon, en fait, le mot-clé, c'est celui du miroir, c'est-à-dire que l'intime, si je mobilise quelque chose d'intime, ça doit être pour tendre un miroir. Sinon, c'est une fenêtre sur ma vie et ça devient du voyeurisme, du coup. Donc, ça n'a aucun intérêt. Donc, et en fait, les grands débats sur l'autofiction, on en a marre des auteurs qui écrivent. Moi, ça me fatigue parce qu'en fait, on peut écrire un roman qui soit totalement autocentré et absolument pas généreux et très mal adressé, comme on peut effectivement parler de soi pour donner la parole, prendre la parole pour la donner, en fait. C'est ça, moi, mon ethos, en fait, d'écriture, c'est de prendre la parole pour la donner, pour créer un espace, pour que l'autre s'y voit, en fait, pour que l'autre s'y reconnaisse, et pas pour parler de moi, parce que, en l'occurrence, je ne suis pas plus intéressante que qui que ce soit d'autre.
À travers ce que vous pouvez raconter, à travers vos histoires et même vos fictions, il est question assez souvent de mettre au monde, de grandir, de vieillir, de mourir. Et c'est aussi des questions que vous mettez dans le livre Les Grandissants, par exemple, qui est c'est très beau ce terme de grandissant d'ailleurs, qui est en quelque sorte un éloge de l'adolescence, où vous convoquez la parabole du fils prodigue. Mais vous avez siégé, Marion Muller-Collard, entre 2019 et 2021 à la CIAZ, la commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église. Et il me semble que, là aussi, encore une fois, c'est important d'avoir tout ce que vous venez de dire en tête, parce que quand vous dites que vous allez rencontrer l'autre à travers l'écriture, dans votre vie aussi, à l'hôpital, quand vous étiez aumônière, dans votre vie de théologienne, quand vous écrivez pour transmettre des histoires de vie à partir des enfants ou à profondeur d'enfants, ou que vous transmettez aux enfants, il me semble quand même que dans ce que vous avez entendu lors de cette commission, et vous allez nous le dire, vous y êtes allé avec tout ça, tout ce que vous êtes, et que ça croise cette commission des histoires de vie que vous avez pu toucher ou entendre à partir d'enfants qui ne sont plus des enfants, mais qui ont été enfants maltraités et victimes d'abus. Et que c'est peut-être une des raisons pour lesquelles vous avez accepté d'y être.
C'est une grande énigme pour moi de savoir pourquoi je me suis infligé ça, en fait, parce que c'était d'une immense violence, si ce n'est par sentiment de devoir, de me dire que... si cette violence des faits a dû être vécue par autant de personnes, il n'y a pas de raison que je ne puisse pas supporter la violence d'en être informée, en fait. Mais de fait, c'est très particulier de plonger en enfer, en fait. Et là où j'étais pas préparée, c'est que j'avais, comme on l'a abordé dans les épisodes précédents, travaillé la question du malheur, mais pas la question du mal. Machiavélique du mal, du mal, de la violence, de la malveillance. Et donc j'étais assez démunie devant ça. Après, oui, le tropisme de l'enfance dans l'écriture, dans le thème d'écriture, dans les travaux de cette commission, je ne sais pas très bien d'où ça me vient, si ce n'est que peut-être une fidélité par intermittence dans mon histoire à l'enfant que j'ai été. Et j'ai le privilège d'être l'éditrice d'un très beau livre sur l'enfance qui va paraître bientôt, de Clémentine Beauvais, qui est une excellente autrice jeunesse, une véritable autrice jeunesse, et qui écrit pour Labor et Fides dans la collection « Qu'est-ce que ça change, l'enfance ? Qu'est-ce que ça change ?» Et elle fait ce constat... qui a l'air de rien, mais auquel il faut penser, qui est que c'est l'unique expérience de marginalité que nous partageons tous. Et force est de constater que nous n'en faisons pas tous la même chose de cette expérience précoce et première de la marginalité. Parce qu'en effet, le monde n'est pas bâtie par des enfants pour des enfants. Donc l'enfant est cet être qui va être soumis à une adaptation permanente. Et je crois que cette expérience, ce visage de l'enfant dérouté, perdu, c'est quelque chose qui m'empoigne en fait systématiquement. Et cette espèce pour le coup de malédiction purement humaine, de reproduire des schémas qu'on a subis soi-même de façon aveugle. Et je crois l'avoir fait en tant que mère d'ailleurs, d'avoir oublié l'enfant perdu pour pouvoir devenir mère, et donc d'avoir été parfois négligente sur l'effet de choc que peut produire le monde des adultes sur un petit, en fait. Et cette façon qu'on a de dominer les enfants, de vouloir les faire rentrer dans notre monde pour nos propres commodités, et cet abus permanent qu'on a à l'égard des enfants. Ça, c'est quelque chose à quoi je suis redevenue extrêmement sensible. Je pense que c'était une sensibilité trop vive pour me permettre d'être mère de petits. Mais quelque chose qui a réémergé, et je pense notamment à travers tout ce que j'ai entendu pendant les travaux de la SIAZ. Et ce qui était extrêmement frappant et vraiment très troublant, c'est que quand une audition commençait, on voyait arriver une personne qui, la plupart du temps, avait, dans les cas des personnes les plus jeunes dont je puisse me souvenir, une quarantaine d'années déjà, quand même, et souvent plutôt 60, voire 70 ans, des gens qui, pour certains, n'avaient jamais raconté ce qu'ils avaient vécu. Et donc, on voyait arriver des gens qui avaient leur âge, en fait, qui avaient leur âge inscrit à l'état civil. Ça collait à peu près. Jusqu'au moment où, tout à coup, ils entraient dans la narration, justement, les faits. Et là, tout à coup, ils avaient l'âge des faits, en fait. Tout à coup, on voyait en superposition, en tout cas, moi, je l'ai vécu comme ça. Je voyais en superposition l'enfant de 5 ans, l'enfant de 8 ans, l'enfant de 12 ans. Moi, il n'y a pas une audition où je n'ai pas pleuré. J'ai pleuré absolument à chaque audition, le plus discrètement possible. Mais voilà, c'était comme ça. C'est une réponse en soi, hein, les larmes aussi, quand même. Hein. Donc, chacun faisait comme il pouvait. Mais de temps en temps, il n'y a que ça à faire. Et ce n'est pas la peine de rajouter des mots Voilà, être capable de chagrin, en fait. Ça m'a souvent sauvée dans la vie. Ça m'a souvent évité de la violence, je pense, à mon propre égard ou à l'égard des autres. Je pense qu'il faut être capable de chagrin. Et là, il n'y avait rien à dire que prendre acte de vie, mais brisée, et de ne jamais se remettre. Je ne veux d'ailleurs pas me remettre d'avoir entendu ça. Il ne faut pas se remettre de ça, et je pense que ça requiert... Ça requiert de repenser totalement ce qu'est un enfant, en fait. On est passé de l'enfant-objet, pas de mémoire, on peut faire ce qu'on veut, il ne se souviendra pas. Françoise Dolto, parmi d'autres, a fait partie des pionniers de l'idée que l'enfant n'était pas juste un tube digestif à qui il suffisait de donner à manger. Donc merci, Françoise Dolto, pour ça. Puis après, on est passé de l'enfant objet presque directement à l'enfant petit adulte, quoi. Ce qui est un autre prétexte pour abuser, hein, d'ailleurs. Voilà. Soit c'est un objet et je fais ce que je veux de lui, soit c'est un adulte et je peux l'entraîner dans ma réalité d'adulte. Ce qui est une autre forme de maltraitance. Et on n'arrive pas, je trouve qu'il y a un défaut de penser l'enfant pour ce qu'il est. C'est-à-dire un être humain complet et entier dès son premier souffle, mais sur une autre modalité que celle dans laquelle nous vivons quotidiennement. Et il y a une étrangeté, je plaisantais souvent avec mon mari, on s'est fait toute une montagne de la différence homme-femme au début de notre couple, on n'avait encore rien vu, parce que l'altérité la plus féroce qui est rentrée dans notre maison, c'est les enfants, quoi. Et c'est vrai que c'est une altérité dingue. Et en plus, qui est d'autant plus à laquelle on est d'autant plus coupable de ne pas savoir répondre que on l'a vécu en fait. Et c'est un chantier. Je trouve que là-dessus, on est préhistorique, quoi. Enfin, j'ai l'impression qu'autour de l'enfance se jouent des choses, des impensés, sur lesquels on est encore complètement stupide. J'espère qu'on rigolera de nous par rapport à l'enfance dans quelques décennies où on aura quelque chose sera débloqué, on aura réussi à trouver, à créer ce rapport. J'ai pas envie de dire harmonieux parce que ça sonne un peu peut-être trop ambitieux, mais en tout cas un rapport juste et sain avec cet être fondamentalement différent et à qui on doit toute notre réserve d'avenir, en plus, si on veut être vraiment, si on veut corréler ça à un intérêt pour l'espèce, c'est quand même l'enfant, c'est notre réserve d'avenir, quoi.
Donc, si je vous entends bien, Marion Muller-Collard, cette expérience au sein de la SIAZ, pour vous en tout cas, ça a aussi été une façon de modifier, compléter, enrichir, je ne sais pas, mais votre rapport aux enfants, à ce qu'est l'enfant. Est-ce que ça a aussi changé votre rapport à l'Église ? Vous avez été choquée par le fait que c'était aussi au sein de l'Église.
Bah, disons que c'est un facteur aggravant par rapport au milieu du sport, par exemple, qui ne prétend pas avoir des valeurs autres que des valeurs de performance, éventuellement ludiques, de convivialité, mais qui prétend pas être un lieu de sécurité, de morale, de donc le facteur aggravant c'est le paradoxe en fait. Encore c'est un euphémisme. C'est que il y a un abus de la foi en fait. Il y a une manipulation. Mais disons ça, j'ai jamais été tellement dupe de ça. Je suis effrayée, je suis sans cesse sidérée et à la fois j'ai jamais tellement été dupe de l'idée que un pasteur ou un prêtre c'était une garantie de tomber sur quelqu'un de mieux que quelqu'un d'autre. Je crois que ça m'a jamais traversé l'esprit en fait. Donc non, je suis pas tombée de haut de ça. C'était pas ça la révélation. Il n'y avait pas de révélation. Il y avait un abîme et la nécessité d'être capable d'y être un petit peu d'ailleurs comme en aumônerie, c'est de pas tout de suite vouloir plaquer quelque chose dessus, justement les grands mots de réparation. En tout cas moi c'était pas à ce niveau-là que je travaillais. Dans les auditions il y avait d'abord être capable d'entendre ça et de pas vouloir tout de suite colmater en fait. Et je crois qu'en fait cette recherche de Quand on est face à de tels récits, de tels accidents dans le cas de la maladie, de telles violences dans le cas des violences sexuelles, en fait, on a tôt fait. Moi, j'ai tôt fait de sortir ma cape de justicière, mais c'est à moi que je viens en secours quand je fais ça, en fait. Donc, j'ai beaucoup appris à la fois dans ces temps-là, comme à l'hôpital, à faire taire les voilà, à me calmer, à pas vouloir, à pas me précipiter en fait, et à me rendre compte que de temps en temps, la personne qui est là en face de moi, il lui suffit que je sois capable de supporter tout ce qu'elle a à déposer là et à dire sans partir en courant, sans faire de grandes promesses que je pourrais pas tenir, sans vouloir récupérer ça dans un système de sens. Et ça, en fait, ce silence-là et cette présence-là, elle est épuisante. Et c'est quelque chose qu'on a du mal à se donner les uns aux autres, en fin de compte. Juste de pas venir tout de suite, en fait, de bien se demander à chaque fois qu'on dit quelque chose par-dessus le mal ou le malheur, à qui est-ce qu'on vient en aide quand on fait ça, en fait.
Précisément, c'est la question que j'avais envie de vous poser pour terminer cet épisode. À quoi vous pensez qu'elle a servi cette commission ? Puisque vous dites il y a ce qui s'est passé, c'est-à-dire la violence des actes en eux-mêmes, et puis jusqu'à cette commission, il y avait la violence du silence qui s'était abattue sur les victimes. Ensuite, est-ce que vous diriez qu'elle a au moins servi à sortir du silence ?
Elle rend le silence plus compliqué. Je dis pas, enfin voilà, je n'ai pas les moyens de savoir si elle a permis d'éradiquer en fait le silence de l'institution. Mais ce que vous dites est très important, c'est que en fait, il est possible de se remettre de ce type d'agression. Je pense que c'est important de le dire. Il faut pas condamner les personnes qui vivent des agressions aussi graves que ces agressions sexuelles, les condamner à aller mal jusqu'à la fin de leur jour. On a le droit de s'en remettre, et ça peut être possible. En revanche, quand vous franchissez une montagne à enfin dire, quand un enfant ou un adulte plus tard franchit cette immense montagne de dire, tu sais, il faut que je te dise, et qu'en face, il n'y a pas quelqu'un qui se met à genoux devant lui, lui prend les épaules et lui dit « Ce qui est arrivé est absolument grave. Tu n'en es pas responsable. Et on va aller ensemble à la gendarmerie parce que la personne qui a fait ça, elle est coupable, elle doit être jugée. » Quand c'est pas ça, c'est la seule réponse adéquate. Quand c'est pas cette réponse qui est donnée. Quand l'autre vient à son propre secours dans la réponse qu'il fait à l'enfant, eh ben là, on rend vraiment le retour à la santé, je veux pas dire impossible, mais c'est ce silence de l'institution qui a tué, en fait. C'est-à-dire que les actes de violence, ils ont énormément abîmé, mais il y avait encore, pour certains, une guérison possible s'ils avaient été immédiatement entendus et pris au sérieux. Donc l'institution est presque encore plus coupable, parce qu'un pédocriminel, c'est quelqu'un qui est malade, en fait. Moi, je n'arrive même pas à juger, je suis au-delà de toute capacité de jugement de ce type d'acte, en fait. Mais par contre, quelqu'un de sain d'esprit, qui pour sauver sa peau, son poste, son institution, pense qu'il peut monnayer la vie psychique et même des fois la vie tout court d'un enfant, c'est pour moi, c'est un criminel, c'est encore plus un criminel, en fait. Enfin, là, je vois pas, quoi. Donc, si la SIAZ a permis de rendre plus difficile ce type de réponse-là, et je pense qu'elle a permis de rendre plus difficile, peut-être pas impossible, mais plus difficile, eh ben, ça valait le coup, oui.
Merci, Marion Muller-Collard. On se retrouve pour l'épisode 4. On parlera d'éthique, l'enjeu éthique. À demain.
À demain.
C'était À Voix Nue avec Marion Muller-Collard, réalisation Guillaume Baldi, chargée de programme À Voix Nue Daphné Abgrall, une série de Caroline Brouet disponible sur le site de France Culture et l'application Radio France.